Chapitre 32. Martin Silenus se tord et se débat dans les affres de la plus pure poésie de la douleur. Une épine d'acier de 2 mètres de long le pénètre entre les omoplates et la pointe, une terrible pointe, effilée d'un mètre de long, ressort de l'autre côté. Ses bras, qui ne cessent de s'agiter, ne peuvent saisir l'épine. Elle est trop glissante. Ses doigts et ses paumes ne trouvent aucun point d'appui stable. Cependant, son corps ne glisse pas. Il est aussi fermement empalé qu'un papillon dans une vitrine de collectionneur. Il n'y a pas une seule goutte de sang. Dans les heures qui ont suivi le retour à la rationalité, à travers la brume insensée de la douleur, Martin Silenus n'a pas cessé de s'interroger là-dessus. Il n'y avait pas de sang. Mais il y a de la douleur en abondance. Oui, de la douleur à profusion, plus que tout ce qu'il avait pu imaginer avant en tant que poète. De la douleur qui dépasse les limites de la torture et celles de l'endurance humaine. Pourtant, Silenus souffre et endure. Il hurle pour la 1000e fois. C'est un son déchiré, vide de contenu, libre de toute syllabisation, sans même un mot d'obscénité. La parole ne suffit pas à exprimer une telle douleur. Silenus gémit et se tord. Au bout d'un moment, il se laisse pendre mollement, la longue épine oscillant légèrement au gré de ses mouvements circulaires. D'autres humains sont empalés autour de lui, mais il passe peu de temps à essayer de les observer. Chacun est dans son cocon individuel de souffrance. « C'est bien ici l'enfer, » pense Silenus, citant Marlowe. « Et je ne suis pas au dehors. » Mais il sait que ce n'est ni l'enfer ni l'au-delà. Il sait aussi, cependant, qu'il ne s'agit pas de quelque sous-section de la réalité. L'épine lui traverse vraiment le corps. 8 centimètres d'acier organique lui transperce la poitrine. Mais il n'est pas mort. Son sang n'a pas coulé. Cet endroit correspond à quelque chose de réel, mais ce n'est pas l'enfer, et ce n'est pas la vie. Le temps ici est étrange. Silenus a déjà eu souvent dans sa vie l'impression que le temps s'étirait et se ralentissait. La torture d'un nerf à vif dans le fauteuil du dentiste, celle d'un calcul rénal dans la salle d'attente de la clinique, le temps est capable de freiner son rythme, de sembler s'arrêter entre les aiguilles d'une horloge biologique indignée, encore sous l'effet du choc. Mais le temps, ici, ne bouge absolument pas. Le canal pulpaire a été traité, l'ultramorphine a fini par arriver et a fait son effet, mais ici, l'air lui-même est figé par l'absence du temps. La douleur est le bord d'attaque et l'écume d'une vague qui ne retombe jamais. Silenus hurle de colère et de douleur. Il se tord sur son pal.
« Bordel !»
réussit-il enfin à articuler.
« Bordel de putain d'enculé de merde !»
Les mots sont le vestige d'une autre vie, des artefacts issus du rêve qu'il a vécu avant la réalité de l'arbre. Silenus ne se souvient qu'à moitié de cette vie, de même qu'il ne se souvient qu'à moitié du Gritch qu'il a porté ici pour l'empaler.
« Ah, mon Dieu !»
gémit le poète en essayant d'empoigner l'épine à 2 mains pour soulager le poids de son corps qui ajoute une dimension infinie à l'infini de sa douleur. Il aperçoit le paysage au-dessous de lui. Il le voit sur 10 kilomètres. C'est un paysage figé, un diaporama en papier mâché de la vallée des tombeaux du temps et du désert qui s'étend au-delà. Même la cité morte et les montagnes lointaines sont reproduites en une miniature stérile et plastifiée. Mais cela n'a pas d'importance. Pour Martin Silenus, seul l'arbre et la douleur existent, et ils sont indivisibles. Le poète montre ses dents en un sourire fêlé par la douleur. Lorsqu'il était enfant sur l'ancienne terre, son meilleur ami, Amalfi Schwartz, et lui avaient visité une communauté de chrétiens dans la grande réserve d'Amérique du Nord. Ils s'étaient documentés sur leur théologie primitive, et avait échangé par la suite de nombreuses plaisanteries sur la crucifixion. Le jeune Martin avait écarté grand les bras, croisé les jambes, penché la tête et murmuré « Super, on aperçoit toute la ville de là-haut. » Amalfi avait rugi de rire. Silénus hurle. Le temps ne s'écoule pas vraiment, mais au bout d'un moment, l'esprit de Silénus retourne à ce que l'on pourrait appeler un état d'observation linéaire. Quelque chose qui diffère des oasis de souffrance lucide et pure, disséminées dans un désert de torture passivement subie. Et dans cette perception linéaire de sa propre souffrance, Silénus, peu à peu, impose le temps à cet endroit hors du temps. Pour commencer, les obscénités ajoutent de la clarté à sa douleur. Hurler lui fait mal, mais la colère rend les choses plus nettes et plus distinctes. Ensuite, dans les intervalles entre deux accès de hurlement ou de spasmes de pure douleur, Silénus se force à penser. Au début, ce n'est qu'un effort pour ordonner ses idées, pour se réciter les tables de multiplication, n'importe quoi pour séparer la souffrance d'il y a 10 secondes de la souffrance à venir. Silénus s'aperçoit que dans son effort de concentration, il arrive à atténuer légèrement la douleur. Elle est toujours insupportable. Elle fait toujours voler ses pensées comme autant de feuilles mortes sous le souffle d'un ouragan, mais elle a tout de même diminué d'une quantité indéfinissable. Silénus se concentre. Il continue de hurler et de se tordre, mais il se concentre. Et comme il n'a rien d'autre sur quoi se concentrer, il se concentre sur la douleur. La douleur, découvre-t-il, possède une structure. Elle a un plan et une configuration plus complexe qu'un nautile avec ses cloisons. Elle a des ornements plus baroques que ceux de la plus raffinée des cathédrales gothiques. Même dans ses cris, Martin Silénus étudie la structure de sa douleur. Il s'aperçoit qu'elle équivaut à celle d'un poème. Il arc-boute le dos et la nuque pour la millième fois, cherchant un soulagement là où tout soulagement est impossible, mais cette fois-ci, son mouvement lui permet d'apercevoir, à 5 mètres au-dessus de lui, une forme familière, empalée comme lui à une épine de l'arbre, qui se tord sous le souffle irréel de la douleur atroce.
« Billy !»
s'écrie-t-il, et c'est sa première pensée contrôlée. Son ex-mécène et suzerain a le regard perdu dans des abîmes aveugles. La même douleur qui obnubilait l'esprit de Silénus l'obnubile en ce moment. Cependant, il tourne légèrement la tête, comme à l'appel de son nom dans cet endroit situé au-delà des noms.
« Billy !»
crie de nouveau Silénus. Puis sa propre douleur lui fait perdre la vision et la concentration. Mais il se reconcentre sur la structure de la souffrance. Il en suit les contours comme s'il dessinait le tronc, les branches et les ramifications de l'arbre aux épines lui-même.
« Seigneur !»
Silénus entend une voix qui domine les hurlements et il est stupéfait de s'apercevoir que les hurlements et la voix lui appartiennent.
« Tu es fait pour le rêve ! Tu es ta propre fièvre ! Songe à la terre ! Quelle joie ! Même dans l'espoir, peut-elle encore te donner ? Quel havre ! Toute créature a sa demeure. Tout homme connaît ses jours de joie et de douleur, que ses accomplissements soient sublimes ou modestes. La douleur et la joie lui sont distinctes. Seul le rêveur empoisonne tous ses jours, supportant plus d'afflictions qu'il n'en mérite par tous ses péchés.
Il connaît bien ces vers qui ne sont pas de lui, mais de John Keats. Les mots contribuent à structurer davantage le chaos apparent de douleur qui l'entoure. Il comprend que la douleur, en réalité, est en lui depuis sa naissance. C'est le présent fait par l'univers à un poète, un reflet physique de la douleur qu'il a ressentie dans sa vie et qu'il a futilement essayé de mettre en vers ou d'épingler dans sa prose durant toutes ses années de vie inutile. C'est plus grave encore que la douleur. C'est de l'affliction. La douleur, l'univers l'offre à tout le monde.
« Seul le rêveur empoisonne tous ses jours, supportant plus d'afflictions qu'il n'en mérite par tous ses péchés. »
Silénus crie ses vers mais ne hurle plus. La rumeur de lamentation de l'arbre, plus psychique que physique, se calme l'espace d'une fraction de seconde. Il s'établit un îlot de distraction au milieu d'un océan compact.
Martin !
Silénus tord le cou, soulève la tête, essayant d'éclaircir sa vision au milieu de la brume de douleur. Le roi Billy le Triste le regarde. Oui, le regarde. Le roi Billy le Triste émet une syllabe inarticulée et rauque dans laquelle, au bout d'un moment sans fin, le poète reconnaît « encore ». Martin Silénus hurle de souffrance. Il se tord en un spasme physique de réponse aveugle, mais quand le spasme cesse et qu'il reste là suspendu, la douleur nullement allégée mais simplement chassée des zones motrices de son cerveau par les toxines de fatigue, il laisse hurler sa voix intérieure qui sort comme une chanson.
« Esprit, toi qui règnes ici, esprit qui fait mal, esprit qui brûle et qui porte nos deuils, j'incline bas le front devant toi, esprit qui demeure dans l'ombre de tes ailes, et je plonge un regard passionné dans ton pâle domaine !»
Le petit cercle de silence s'élargit pour inclure plusieurs branches voisines, une poignée d'épines chargées de malheureux humains à l'agonie. Silénus lève la tête vers le roi Billy le Triste. Il voit son suzerain trahi qui ouvre les paupières de ses yeux tristes. Pour la première fois depuis plus de 2 siècles, mécène et poète s'observent. Et Silénus transmet le message qu'il a amené ici, qu'il a fait empaler à ses branches.
« Seigneur, je vous fais mes excuses !»
Avant que Billy puisse répondre, avant que le chaos des lamentations ne noie toute réponse, l'atmosphère se transforme. L'impression que le temps est figé se brise, et l'arbre tremble, comme s'il s'était tout entier affaissé d'un mètre. Silénus hurle en même temps que les autres lorsque la secousse déchire ses chairs empalées, déjà meurtries par l'épine d'acier. Silénus rouvre les yeux et voit que le ciel est réel. Le désert est réel, les tombeaux luisent, le vent souffle et le temps a repris sa marche. La torture n'est en rien amoindrie, mais son esprit est redevenu clair. Martin Silénus éclate de rire à travers ses larmes.
« Regarde, maman !»
s'écrie-t-il en gigotant, la pointe d'acier dépassant toujours d'un bon mètre de sa poitrine déchirée.
« On aperçoit toute la ville de là-haut »
H.C. Verne, vous vous sentez bien ?» Haletant à 4 pattes, je me tournais vers la voix. Ouvrir les yeux était douloureux, mais aucune douleur ne pouvait se comparer à ce que je venais d'éprouver. « Vous vous sentez bien, monsieur ?» Il n'y avait personne à côté de moi dans le jardin. La voix provenait d'un mini-drone qui bourdonnait à 50 cm de mon visage, relayant probablement l'un des agents de la sécurité de la maison du gouvernement. « Oui, » réussis-je à dire en me relevant pour épousseter le gravier qui collait à mes genoux. « Ça va bien. J'ai eu une douleur subite.
Nous pouvons vous fournir une assistance médicale en 2 minutes, monsieur. » Votre biomoniteur ne signale aucune difficulté organique particulière, mais non, non, c'est inutile. Je vais très bien. Laissez tomber et laissez-moi.
Le mini-drone battit des ailes comme un colibri nerveux.
Bien, monsieur. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez. Les moniteurs du parc vous répondront.
Allez-vous-en !
M'écriai-je. Je quittai les jardins. Je traversai le hall de la maison du gouvernement où grouillaient les agents de la sécurité, puis sortis du parc Audin. Les docks étaient calmes. Le fleuve Tétis était plus paisible que je ne l'avais jamais vu. « Que se passe-t-il » demandai-je à un homme de la sécurité qui se tenait sur le quai. Il voulut d'abord vérifier mon persoc pour confirmer l'existence de mon code prioritaire émanant de la présidente, mais ne se pressa pas pour autant de répondre.
« Les portes ont été fermées sur TC carré, »
me dit-il de sa voix traînante.
« La circulation est détournée. »«
Détournée ? Vous voulez dire que le fleuve ne coule plus sur Tocéti Central ?»«
Exactement. »
Il abaissa sa visière à l'approche d'un petit bateau, puis la releva lorsqu'il eut identifié les 2 agents de la sécurité qui se trouvaient à bord. « Est-ce qu'on peut sortir par là ? demandai-je en indiquant l'amont où les grandes portes formaient un rideau gris opaque. Il haussa les épaules.
« Vous pouvez, mais il vous sera impossible de revenir par là. Ça ne fait rien.
Est-ce que je peux prendre cette embarcation ?» Le garde murmura quelque chose dans son micro-perle, puis hocha la tête.
« Allez-y. »
Je montai avec précaution dans le petit bateau et m'assis à l'arrière en me tenant au plat-bord jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Puis je touchai le disque de guidage en disant « En route !» Les moteurs électriques se mirent à bourdonner. Le bateau défit ses amarres et pointa le nez vers le milieu du fleuve. Je le guidai vers l'amont. Je n'avais jamais entendu dire qu'une partie du fleuve avait été isolée. Mais le rideau d'Istrans constituait bel et bien une membrane semi-perméable à sens unique. Le bateau la franchit sans mal. Cela me laissa à peine une sensation de picotement et je me tournai pour regarder autour de moi. J'étais dans l'une des grandes cités de canaux, peut-être Hardman ou Pamolo, sur le vecteur Renaissance. Ici, le Tétis était l'artère principale d'où partaient plusieurs canaux secondaires. En temps ordinaire, la seule circulation fluviale aurait été celle des gondoles promenant les touristes sur les chenaux extérieurs, tandis que les yachts et les passe-partout des citoyens aisés emprunteraient les passages centraux. Aujourd'hui, c'était une véritable pagaille. Des bateaux de toutes sortes et de toutes tailles encombraient les chenaux du centre, dans les deux sens. Certaines péniches d'habitation étaient remplies d'affaires entassées sur le pont. Les embarcations de petite taille étaient si lourdement chargées que la moindre vague aurait probablement suffi à les faire chavirer. Des centaines de jonques de plaisance de Tsingtao Sichuangpana et des barges résidentielles de Fuji, coûtant chacune plus d'un million de marks, se disputaient le passage. La plupart avaient dû quitter leur quai pour la première fois aujourd'hui. Au milieu de cet enchevêtrement de bois, de plastaciers et de perspex, les passe-partout se déplaçaient comme des œufs argentés protégés par leur champ de confinement réglé au maximum de réflexion. J'interrogeai l'infosphère. Le vecteur Renaissance était un monde de la deuxième vague, à 107 heures de l'invasion. Il me semblait surprenant que les réfugiés de Fuji viennent encombrer les voies fluviales de cette planète, alors que leur monde avait encore plus de 200 heures de répit avant que le couperet ne tombe. Mais je m'avisais que, à part ces carrés qui avaient été retirés du fleuve, le Tétis suivait toujours son cours à travers la série habituelle de monde. Les réfugiés de Fuji avaient emprunté la voie fluviale à partir de Tsingtao, qui se trouvait à 33 heures des extros, pour passer par Dedemtrey à 147 heures, puis par le vecteur Renaissance, qui leur permettrait de gagner parcimonie ou grâce, encore exempte de toute menace pour le moment. Je secouai la tête, cherchai un canal secondaire relativement à l'abri de toute cette folie pour observer ce qui se passait, et me demandai quand les autorités songeraient à modifier le cours du fleuve pour que toutes les planètes menacées puissent envoyer leurs ressortissants se mettre à l'abri. Est-ce matériellement possible ? Le technocentre avait configuré le fleuve Tétis à l'occasion du 5e centenaire de l'hégémonie, comme un présent à cette dernière. Mais Gladstone ou quelqu'un d'autre avait bien dû penser à demander l'aide du centre pour organiser l'évacuation. Rien n'était moins sûr en fait, me disais-je. Et il n'était pas sûr non plus que le centre accepterait d'apporter son aide. Je savais Gladstone persuadé que certains éléments du technocentre voulaient l'élimination pure et simple de l'espèce humaine et que cette guerre, en l'occurrence, était son seul choix. Quelle occasion pour les éléments anti-humains du centre de réaliser leur programme en refusant simplement d'évacuer des milliards de personnes menacées par les extros. Je souriais, même si c'était un sourire jaune, mais mon sourire disparut bientôt lorsque je m'avisais que c'était également le technocentre qui entretenait le réseau d'Istrans sur lequel je comptais pour quitter les territoires menacés. J'avais amarré mon embarcation au pied de l'escalier de pierre qui descendait dans les eaux saumâtres. Je regardais la présence d'une algue verdâtre qui poussait sur les marches du bas. La pierre était peut-être originaire de l'ancienne terre, car des cités entières avaient été transférées par Distrans dans les années qui avaient suivi la grande erreur. Les marches étaient usées par l'âge, et le fin réseau de craquelures reliant les points de mousse ressemblait à une carte du Retz. Il faisait chaud. L'air était moite et beaucoup trop lourd. Le soleil du vecteur Renaissance était très bas au-dessus des toits à pignons. La lumière était trop rouge et trop visqueuse pour mes yeux. Le bruit du tétis était assourdissant, même ici, 100 mètres plus loin, dans ce bras qui était l'équivalent d'une ruelle étroite. Des pigeons tournoyaient dans un grand froissement d'ailes entre les murs sombres et les avancées des toits. Qu'est-ce que je peux faire ? Tout le monde semblait se comporter comme si le monde se précipitait vers la destruction, et tout ce que je trouvais à faire, c'était me promener au hasard. C'est ton travail. Tu es un observateur. Je me frottais les yeux. Qui a dit que les poètes devaient être de bons observateurs ? Je songeais à Li Po et à George Wu, conduisant leur armée à travers la Chine et écrivant quelques-uns des vers les plus sensibles de l'histoire pendant que leurs soldats dormaient. Au moins Martin Silenus avait eu une longue vie, fertile en événements, même si une moitié de ces événements étaient obscènes et le reste à demi gaspillé pour rien. À la pensée de Martin Silenus, je laissais échapper un gémissement. Est-ce que l'enfant, Rachel, est empalée, elle aussi, aux épines de l'arbre ? Cette pensée m'était venue subitement, et je me demandais, l'espace d'une seconde, si un tel sort n'était pas préférable, tout compte fait, à l'annihilation instantanée causée par la maladie de Merlin. Non. Je fermais les yeux, m'efforçant de ne plus penser à rien, espérant contacter Sol d'une manière ou d'une autre pour avoir des nouvelles de l'enfant. Le bateau dansait doucement sous l'action des vaguelettes créées par le passage lointain d'autres bâtiments sur le fleuve. Quelque part au-dessus de ma tête, des pigeons s'envolèrent pour se percher sur une corniche en roucoulant.
« Difficile ou non, je m'en fiche !»
hurle Meina Gladstone.
« Je veux que la totalité de la flotte du système de Vega se porte à la défense d'Evans Gate. Vous pourrez transférer ensuite les éléments nécessaires sur le Bosquet de Dieu et sur les autres planètes en danger. Notre seul avantage à l'heure actuelle, c'est la mobilité !»
Le visage de l'amiral Singh est noir de frustration.
« Trop dangereux, H-présidente. Si nous transférons directement la flotte dans l'espace de Vega, elle court le risque terrible de se retrouver coupée du Retz. Ils feront tout pour détruire la sphère de singularité qui relie ce système aux autres mondes de l'hégémonie. Protégez-la !»
coupe Gladstone, glacial.
« Nos coûteux vaisseaux de combat sont là pour ça, n'est-ce pas ?»
Singh se tourne vers Morpurgo et les autres galonnés comme pour quémander de l'aide, mais personne ne dit rien. Le mur est couvert de colonnes de tableaux de chiffres sans cesse modifiés. Personne n'y prête attention.
« Toutes nos ressources sont actuellement consacrées à la protection de la sphère de singularité du système d'Hyperion »,
reprend l'amiral Singh d'une voix moins forte, en espaçant soigneusement ses mots.
« Il est très difficile de se replier sous le feu de l'ennemi, particulièrement sous l'assaut d'un essaim entier comme c'est le cas là-bas. Si cette sphère-là devait être détruite, notre flotte se retrouverait isolée, avec un déficit de temps de 18 mois par rapport au Retz. La guerre serait perdue avant leur retour. »
Gladstone hoche rapidement la tête.
« Je ne vous demande pas de renoncer à défendre cette sphère de singularité avant le repli de notre flotte, amiral. J'ai déjà accepté l'idée de leur abandonner Hyperion avant l'évacuation de tous nos vaisseaux qui sont encore là-bas. Mais j'insiste pour que nous ne les laissions pas s'emparer d'autres planètes du Retz sans combat. »
Le général Morpurgo se lève alors. Le Lusien a déjà l'air épuisé.
« H-présidente, nous avons prévu de nous battre, mais il nous paraît plus logique de fixer le départ de notre système de défense dans le secteur d'Hébron ou du vecteur Renaissance. Non seulement nous gagnons ainsi 5 jours pour nous préparer, mais… »«
Mais nous perdons 5 mondes !»
interrompit Gladstone.
« Des milliards de citoyens de l'hégémonie, des êtres humains !»« La perte d'Evans Gate serait une chose terrible. Le Bosquet de Dieu représente un trésor culturel et écologique irremplaçable. »«
H-présidente !»
déclare Alan Imoto, le ministre de la Défense.
« Nous avons des raisons de penser qu'il existe depuis de nombreuses années une collusion entre les Templiers et la soi-disant église Grichtec. La majeure partie du financement de cette dernière provient de… »
Gladstone lève la main pour le faire taire.
« Tout cela ne m'intéresse pas. L'idée de perdre le Bosquet de Dieu est inadmissible. Si nous ne pouvons assurer la défense de Vega et d'Evans Gate, nous commencerons par la planète des Templiers. C'est mon dernier mot. »
Singh s'efforce de sourire ironiquement, mais on dirait que de lourdes chaînes pèsent sur ses épaules.
« Cela nous laisse moins d'une heure, H. Présidente, » murmure-t-il.
« Il n'y a pas à revenir là-dessus, » fait Gladstone d'une voix ferme. « Leigh, où en sont les émeutes sur l'Usus ?»
Hunt s'éclaircit la voix. Son allure est plus servile et plus mielleuse que jamais.
« H. Présidente, 5 ruchers au moins sont actuellement touchés. Des biens ont été détruits pour une valeur de plusieurs centaines de millions de marques. Des troupes de la force ont été distransportées depuis Freeholm et semblent maîtriser plus ou moins les manifestations et le pillage. Mais nous ne sommes pas en mesure de dire à quel moment le service distrans pourra reprendre dans ses ruchers. Il ne fait pour nous aucun doute que l'église Grichtek porte la responsabilité de tout cela. La première émeute dans le rucher de Bergstrom a commencé par une manifestation de fanatiques de ce culte. L'évêque a fait irruption sur les programmes de TVHD jusqu'à ce qu'il soit coupé par...
Gladstone baisse le front.
Il s'est donc finalement manifesté au grand jour. Est-il actuellement sur le Zus?
Nous l'ignorons, H. Présidente, répond Hunt. L'agence de transit est en train d'essayer de retrouver sa trace et celle de ses principaux acolytes.
Gladstone se tourne vers un jeune homme que je mets plusieurs secondes à reconnaître. Il s'agit de l'ex-capitaine de frégate William Ajuntali, le célèbre héros de la bataille d'Alliance Maui. La dernière fois que j'en avais entendu parler, le jeune homme avait été transféré dans les confins pour avoir osé dire ce qu'il pensait en présence de ses supérieurs. Aujourd'hui, son uniforme de la force est orné de galons émeraudes et or de contre-amiral.
« Que pensez-vous de l'idée de nous battre planète par planète ?»
lui demande Gladstone, ignorant sa propre décision de ne plus revenir sur cette question.
« Je pense que c'est une erreur, H. Présidente, »
répond Lee. « Les 9 essaims sont engagés dans cette offensive. Le seul dont nous n'ayons pas à nous soucier pendant 3 ans, à supposer que nous puissions évacuer nos forces sans trop de casse, est celui qui attaque en ce moment Hyperion. Si nous concentrons nos forces, ne serait-ce que la moitié de notre flotte, pour faire face à la menace qui pèse sur le bosquet de Dieu, il y a 99 chances sur 100 pour que nous soyons incapables, par la suite, de les utiliser à temps pour défendre les 8 autres planètes de la première vague. »
Gladstone se frotte la lèvre inférieure. « Que recommandez-vous ? »
Le contre-amiral Lee prend une lente inspiration.
« Je recommande que nous réduisions nos pertes et que nous détruisions les sphères de singularité des 9 systèmes menacés afin de nous concentrer sur une attaque d'envergure contre les essaims de la deuxième vague avant qu'ils n'atteignent des systèmes stellaires habités. »
Un tohu-bohu éclate autour de la table. Le sénateur Feldstein, du monde de Barnard, s'est dressé comme un ressort et hurle quelque chose. Gladstone attend que la tempête se calme.
« Vous voulez dire, porter la guerre chez eux ? Contre-attaquer les essaims eux-mêmes au lieu d'attendre de mener un combat défensif ? » ?»«
Exactement, H. Présidente. » Gladstone s'adresse à l'amiral Singh.
« Est-ce que la chose est faisable ? Est-ce que nous pouvons organiser, préparer et lancer une telle offensive dans les... »
Elle consulte le panneau de données sur le mur en face d'elle.
« 94 heures standard. »
Singh fait un effort visible pour se concentrer sur ce qu'elle dit.
« Si la chose est... possible ? Peut-être, H. Présidente. Mais les répercussions politiques, la perte de 9 mondes du Retz, les difficultés logistiques...
Est-ce possible ?
Insiste Gladstone.
Oui, H. Présidente. Mais si...
Alors faites-le !
Coupe Gladstone. Elle se lève et tous les autres l'imitent.
Sénateur Feldstein, je vous recevrai ainsi que tous les responsables concernés dans mes appartements privés. Leigh, Alan, vous voudrez bien me tenir informé de l'évolution des émeutes sur l'Usus. Le conseil de guerre se réunira ici même dans 4 heures. Mesdames et messieurs, bonne journée.
Je marchais dans les rues comme au milieu d'un nuage, l'esprit à l'affût du moindre écho. Loin du fleuve Tétis, là où les canaux étaient moins nombreux et les voies pour piétons plus larges, la foule était beaucoup plus dense. Je me laissais guider par mon persoc vers différents terminex, mais chaque fois la foule était un peu plus compacte. Il me fallut quelques minutes pour comprendre qu'il n'y avait pas là que les habitants de Renaissance 5 qui cherchaient à sortir, mais aussi des curieux venus de tout le Retz qui cherchaient à entrer. Je me demandais si quelqu'un, parmi les responsables de l'évacuation mise en œuvre par Gladstone, avait envisagé le problème de l'afflux de millions de curieux se distransportant là pour assister au début de la guerre. Je n'avais pas la moindre idée de la manière dont je pouvais rêver les conversations qui se déroulaient dans la salle du conseil de guerre, mais je n'avais aucun doute sur leur authenticité. Lorsque j'y repense maintenant, je me souviens de détails infimes de mes rêves passés, non seulement de mes rêves d'Hyperion, mais aussi des promenades nocturnes de monde en monde de la présidente et de ses réunions avec ses collaborateurs les plus directs. Qui étais-je donc ? Un cybride est un prolongement biologique, une extension des IA, ou, dans le cas présent, d'une personnalité récupérée, une entité qui se tient tranquillement à l'abri quelque part dans le technocentre. Il était raisonnable de penser que le centre était au courant de tout ce qui se passait à la maison du gouvernement et dans les différents hauts lieux du pouvoir politique humain. L'humanité était devenue aussi blasée quand il s'agissait de vivre sous le regard éventuel de ces IA que sur l'ancienne Terre, à l'époque d'avant la guerre de Sécession, lorsque les familles du Sud n'avaient aucun scrupule à tout dire devant leurs esclaves humains. Et il n'y avait rien à faire pour modifier cela. Le plus modeste des humains, exception faite peut-être de ceux qui vivaient dans les bas-fonds de la ruche des poisses, possédait un persoc et un biomoniteur. Beaucoup avaient des implants, et tout cela restait branché en permanence sur la musique de l'infosphère, sous la surveillance de certains éléments de l'infosphère et sous la dépendance de certaines fonctions de l'infosphère. Les humains se résignaient donc à accepter l'absence de vie privée qui en résultait. Un jour, un artiste d'Espérance m'avait confié. Faire l'amour ou avoir une scène de ménage devant les moniteurs de la maison, c'est comme se déshabiller devant son chien ou son chat. On a un instant d'hésitation la première fois et puis on oublie. Étais-je branché sur quelque canal peu usité ou connu du seul technocentre ? Il y avait pour moi une manière bien simple de le découvrir. Quitter mon cybride et emprunter les avenues de la mégasphère menant au technocentre exactement comme l'avaient fait Brown Lamia et mon double désincarné la dernière fois que j'avais partagé leur perception. Non. Cette seule pensée me donnait le vertige, presque la nausée. Je trouvai un banc pour m'asseoir quelques instants, les coudes sur les genoux, me tenant la tête à deux mains, respirant très lentement et très profondément. La foule s'écoulait sur l'avenue. Quelque part, quelqu'un s'adressait à elle avec un mégaphone. J'avais faim. Je n'avais rien mangé depuis 24 heures au moins. Cybride ou non, mon organisme criait famine et je me sentais sur le point de défaillir. Je m'engageais dans une étroite ruelle où les marchands ambulants, avec leur gyrocharrette à une roue, hurlaient pour se faire entendre au-dessus du tintamarre ambiant, vantant leurs marchandises à qui mieux mieux. Je trouvai une charrette devant laquelle la file d'attente n'était pas trop longue et commandai un chausson au miel avec un gobelet de riche café de Brescia et une barquette de pain pita remplie de salade. Je payai la marchande avec ma carte universelle et entrai dans une maison abandonnée. Je grimpai l'escalier et m'installai sur la terrasse pour manger à mon aise. C'était délicieux. Je sirotai longuement mon café, envisageant de retourner chercher un deuxième chausson, lorsque je remarquai que la foule, sur la place en bas, avait cessé ses allées et venues désordonnées pour s'attrouper autour d'un petit groupe d'hommes qui se tenaient au bord d'une large fontaine au centre de la place. Leurs paroles amplifiées me parvinrent par-dessus la tête des gens assemblés pour les écouter.
« L'ange du châtiment a été lâché parmi nous. Les prophéties se sont accomplies. Le millénium est advenu. Il entre dans les desseins de l'Avatar d'appeler à un tel sacrifice comme l'a toujours prophétisé l'Église de l'expiation finale, qui savait depuis toujours que le moment d'expier viendrait et qu'il serait alors trop tard pour prendre des demi-mesures. Trop tard pour se lancer dans des conflits exterminateurs. La fin de l'humanité est sur nous. Le temps des tribulations est commencé. L'avènement du millénium de notre Seigneur est proche. »
Je compris que les hommes en rouge étaient des prêtres Grichtek auxquels la foule répondait, tout d'abord par des cris espacés, puis par des « oui-oui » ponctués d'amen. Les gens entonnèrent bientôt un hymne à l'unisson. Des poings se dressèrent au-dessus des têtes et des cris d'extase montèrent. Le spectacle était pour le moins incongru. Le Retz moderne a beaucoup d'affinité avec la Rome de l'ancienne terre, juste avant l'époque chrétienne, par sa politique de tolérance, ses myriades de religions, la plupart, comme le gnosticisme zen, complexes et tournées vers l'intérieur, plutôt que portées sur le prosélytisme, avec une tendance générale au cynisme bienveillant et à l'indifférence vis-à-vis des impulsions religieuses. Mais pas en ce moment, et pas sur cette place. J'étais en train de méditer sur l'absence de véritable foule au cours des derniers siècles de la vie du Retz. Pour réunir une foule, il faut une occasion publique, et les occasions publiques, à l'époque moderne, consistent principalement à communier individuellement par l'intermédiaire de la pangermie ou de quelque autre canal de l'infosphère. Il est difficile de soulever les passions collectives lorsque les gens sont séparés par des kilomètres, voire des années-lumière, et reliés seulement les uns aux autres par des lignes com et des mégatrans. Soudain, je fus tiré de ma rêverie par une diminution de la rumeur de la foule, et je vis des centaines de visages se tourner dans ma direction.
« Et voilà, justement l'un d'eux !»
cria le prêtre Gritschteck, dont la robe rouge jeta des reflets flamboyants tandis qu'il pointait l'index sur moi.
« L'un de ceux qui appartiennent au cercle fermé de l'hégémonie, l'un des pêcheurs qui passent leur temps à comploter et qui ont attiré sur nous l'expiation. Ce sont cet homme et ses pareils qui voudraient que l'avatar Gritschteck vous fasse payer leurs péchés pendant qu'ils s'abritent dans l'un des mondes secrets que la hiérarchie de l'hégémonie prépare depuis longtemps à cet effet. »
Je posais mon gobelet de café, avalais mon dernier morceau de chausson et regardais avec ahurissement cet homme qui délirait à mon sujet. Mais comment savait-il que je venais de TC Carré? Ou bien que je faisais partie de l'entourage immédiat de Gladstone? Je mis la main en visière sur mon front pour éviter la réverbération et regardais de nouveau la foule en m'efforçant d'ignorer les visages levés et les poings brandis. Je me concentrais soudain sur les traits de l'homme en robe rouge. Mon Dieu! C'était Spencer Reynolds, le peintre tachiste qui avait essayé vainement, la dernière fois que nous nous étions rencontrés, de dominer la conversation lors du dîner présidentiel de la cime de l'arbre. Il s'était rasé le crâne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa chevelure fournie et de sa coiffure élaborée, à l'exception d'une fine queue de cheval, caractéristique du culte Gritschteck. Son visage, cependant, était toujours bronzé, avec des traits harmonieux malgré la grimace de rage simulée et de foi fanatique qui le déformait présentement.
« Emparez-vous de lui !»
s'écria l'agitateur Reynolds sans cesser de brandir l'index dans ma direction.
« Saisissez-le et faites-lui payer la destruction de nos maisons, le massacre de nos familles et la fin du monde. »
Je me retournais littéralement pour regarder derrière moi, tant j'étais sûr que ce poseur grandiloquent ne pouvait pas parler de moi. Mais c'était bien de ma personne qu'il s'agissait. La foule en folie s'avançait déjà à l'assaut du bâtiment où je me trouvais, brandissant le poing, l'écume de la haine à la bouche, menaçant de piétiner ceux qui ne suivaient pas le mouvement. La rumeur devint une clameur. En cet instant, le total des QI de cette marée humaine ne devait pas excéder le niveau du plus modestement doué de ses membres en temps normal. Les foules, c'est bien connu, sont animées par des passions et non par leur intellect. Je n'avais nul désir de m'attarder plus longtemps pour leur expliquer tout cela. Tandis que la foule se séparait en deux pour donner l'assaut à la cage d'escalier, j'essayais de trouver un passage derrière moi. L'unique porte était fermée à clé. Je m'acharnais dessus à coups de pied jusqu'à ce que le bois éclate et réussis à passer de l'autre côté juste à temps pour échapper aux mains tendues vers moi. Je grimpais un vieil escalier obscur qui sentait le moisi et le poids des années. La foule, derrière moi, finissait de démolir la porte dans un concert de hurlements furieux. Il y avait un appartement au troisième étage. Bien que l'immeuble fût en principe abandonné, il semblait occupé. La porte n'était pas fermée. Je l'ouvris au moment où mes poursuivants débouchaient sur le palier de l'étage inférieur.
Aidez-moi, je vous...
Je m'interrompis net. Il y avait trois femmes dans la pénombre, appartenant peut-être à trois générations de la même famille, car elles offraient une indéniable ressemblance. Elles étaient assises sur des chaises délabrées, vêtues de haillons, les bras tendus devant elles, comme posées sur des sphères invisibles. J'aperçus le mince câble de métal qui reliait la tête aux cheveux blancs de la plus vieille, au boîtier noir posé sur une table poussiéreuse. D'autres câbles, identiques, sortaient du crâne de la fille et de celui de la petite fille. Décâblés, au dernier stade de l'anorexie de liaison, à en juger par leur expression. Quelqu'un devait venir de temps à autre les alimenter par voie intraveineuse et changer leurs vêtements souillés, mais peut-être la guerre avait-elle dissuadé cette personne de revenir. Des pas se firent entendre dans l'escalier. Je refermai la porte et grimpai deux étages de plus. Je ne découvris que des portes fermées à clé ou des pièces abandonnées où l'eau coulait des lattes du plafond pour former des flaques. Des ampoules auto-injectables de flashback jonchaient le sol un peu partout, comme des capsules de boissons gazeuses. « Ça n'a pas l'air d'un immeuble très recommandable, » me dis-je. J'atteignis la terrasse avec 10 pas d'avance sur la meute qui me poursuivait. Ce que cette foule avait perdu en passion aveugle lorsqu'elle s'était séparée de son gourou, elle l'avait regagné dans l'obscurité confinée de l'escalier sordide. Elle avait peut-être oublié pourquoi elle me donnait la chasse, mais cela ne rendait pas mon sort plus enviable si jamais elle réussissait à me capturer. Refermant derrière moi la porte vermoulue de la terrasse, je cherchais un verrou ou quelque chose qui me permette de me barricader. Il n'y avait pas la moindre serrure sur la porte, et rien d'assez volumineux pour la bloquer du dehors. Les bruits se rapprochaient dans l'escalier. Je regardais autour de moi. Il n'y avait là que des petites antennes circulaires montées sur des supports rouillés, une corde à linge apparemment inutilisée depuis des années, les carcasses d'une douzaine de pigeons et un vieux Viken. J'entrais dans le VEM au moment où mes premiers poursuivants arrivaient sur la terrasse. L'engin était une véritable pièce de musée. La poussière et les déjections des pigeons rendaient le pare-brise presque opaque. Quelqu'un avait remplacé les répulseurs d'origine par des pièces à bon marché qui n'avaient pas la moindre chance d'être homologuées un jour. La verrière en perspex était noircie et déformée à l'arrière comme si quelqu'un s'était entraîné à tirer dessus avec un laser. Ce qui occupait mon attention immédiate, cependant, c'était le fait que l'engin était dépourvu de toute serrure palmaire. Il n'y avait qu'un emplacement pour une clé de contact que l'on avait forcée depuis longtemps. Je m'installai sur le siège de pilotage poussiéreux et tentai de claquer la porte. Elle n'accrochait pas. Je la laissai à moitié ouverte. J'évitais de spéculer sur les chances que j'avais de faire démarrer cette épave ou même de résister à la foule quand elle commencerait à me tirer à l'extérieur et à me porter en bas, à moins qu'elle ne se contente de me balancer simplement par-dessus le parapet de la terrasse. J'entendais la rumeur qui montait de la place où le gros de la foule attendait. Les premiers à arriver sur moi furent un gros homme en salopette kaki de technicien, un autre très maigre, vêtu d'un complet noir à la dernière mode de Tossetti, et une femme terriblement obèse qui brandissait une sorte d'énorme clé à molette. Un homme de petite taille, en uniforme vert de la garde nationale de Renaissance, les suivait de près. Tout en maintenant de la main gauche la portière à moitié fermée, je glissais la microcarte prioritaire de Gladstone dans la fente du disque de démarrage. La batterie gémit aussitôt, le démarreur auxiliaire toussa. Je fermai les yeux en priant pour que les circuits solaires soient autoréparateurs et déjà chargés. Des poings tambourinèrent sur le toit, des mains cognèrent le perspex cabossé non loin de mon visage. Quelqu'un tira la portière malgré tous mes efforts pour la maintenir fermée. Les hurlements de la foule lointaine étaient comme la rumeur de l'océan. Ceux du groupe qui se trouvait sur la terrasse ressemblaient à des cris d'oiseaux de mer géant. Les circuits de levage entrèrent en action. Les répulseurs soufflèrent de la poussière et des excréments de pigeons sur la foule de la terrasse. Je glissai la main dans le manche universel, opérai un mouvement en arrière et sur la droite, et sentis le vieux Viken s'élever, vaciller, piquer du nez, puis s'élever de nouveau. J'inclinai l'appareil au-dessus de la place, à moitié conscient du fait que le tableau de bord était rempli d'alarmes visuelles et sonores qui m'avertissaient que quelqu'un s'accrochait encore à la portière ouverte. Je fis un passage en rase-mode sur la place et souris en voyant le prêtre Grichtek Reynolds baisser la tête tandis que la foule courait dans tous les sens.
Puis je grimpai en chandelle au-dessus de la fontaine et basculai fortement l'appareil sur la gauche. Mon passager hurlant ne lâchait toujours pas la portière, mais ce fut elle qui lâcha et le résultat fut le même. Je m'aperçus qu'il s'agissait de la femme obèse au moment où elle toucha l'eau 8 mètres plus bas avec la portière, éclaboussant Reynolds et la foule. Je pris de l'altitude, malgré les protestations bruyantes des composants à bon marché du VEM. Des cris furieux émanant du contrôle aérien local se joignirent aux avertissements du tableau de bord. L'engin fit une embardée, tandis que la police s'emparait prioritairement des commandes, mais j'insérai de nouveau ma microcarte officielle dans la fente, et le manche universel redevint aussitôt opérationnel. Je survolai la plus vieille et la plus ancienne partie de la ville, rasant les toits et frôlant les terrasses pour éviter les radars de la police. En temps normal, les flics de la circulation auraient depuis longtemps fondu sur moi avec leur plateforme de lévitation et leur manche à balai pour me prendre dans leur filet. Mais, à en juger d'après la foule qui s'agitait en bas, particulièrement autour des Terminex d'Istrans, il ne s'agissait pas d'une journée comme les autres. Le week-end commença à me signaler avec insistance qu'il ne pourrait continuer à voler plus de quelques secondes. Je sentis le répulseur de tribord rendre l'âme dans une secousse écœurante. J'essayais d'effectuer, avec le manche uni et la pédale des gaz, un atterrissage en catastrophe sur un parking situé entre un canal et un immeuble à la façade noircie par la suie. Cet endroit se trouvait à plus de 10 kilomètres de la place où Reynolds avait ameuté la foule contre moi, et je pensais n'avoir plus rien à craindre. De toute manière, je n'avais pas le choix. Une traînée d'étincelles jaillit. Le métal s'éventra, une partie du tronçon arrière se détacha, la jupe et le panneau d'accès avant se dissocièrent du fuselage. L'engin finit par s'arrêter à 2 mètres du mur. Je sortis du week-end d'un air aussi décontracté que possible. Les rues étaient toujours occupées par des foules en mouvement qui n'étaient pas encore tout à fait en état d'émeute. Le canal était envahi par une multitude de petites embarcations. Je choisis de me glisser dans l'ombre du bâtiment public le plus proche pour disparaître discrètement. L'endroit faisait office à la fois de musée, de bibliothèque et d'archives. Je m'y sentis à l'aise dès le premier coup d'œil, et de nez, car il y avait là des milliers de livres imprimés dont certains étaient très anciens, et rien ne vaut pour moi l'odeur des vieux bouquins. J'étais dans la salle des catalogues en train d'examiner les fichiers et de me demander si, par hasard, les œuvres de Salmud Brevi n'y figuraient pas, lorsqu'un petit homme à la peau parcheminée, vêtu d'un complet démodé de laine et de fibroplastes, s'approcha de moi en disant « Bonjour, monsieur. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu le plaisir de votre compagnie. » Je hochai la tête sans conviction, certain de n'avoir jamais mis les pieds ici auparavant et de ne pas connaître cet homme. « 3 ans, n'est-ce pas ?»« Oui, au moins 3 ans. Mon Dieu, comme le temps passe !» La voix du petit homme n'était guère plus qu'un chuchotement, le murmure de quelqu'un qui avait passé le plus clair de son existence entre les 4 murs d'une salle de bibliothèque. Mais cette voix était empreinte d'une excitation qui ne lui était visiblement pas coutumière. « Vous aimeriez sans doute aller directement à la salle des manuscrits ?» reprit-il en s'écartant comme pour me laisser passer. « Oui, » répondis-je en m'inclinant légèrement. « Après vous, je vous en prie. » Le petit homme, j'étais presque certain qu'il était archiviste, semblait ravi de m'ouvrir la voie. Tandis que nous traversions une succession de salles feutrées et de corridors aux boiseries d'acajou, où les rangées de livres montaient jusqu'au plafond, il se mit à bavarder tranquillement sur les nouvelles acquisitions de la bibliothèque et sur les compliments ou les visites d'érudits venus du rez-de-sentier. Nous ne rencontrâmes personne d'autre sur tout le chemin. Nous traversâmes une galerie au sol carrelé, bordée d'une rampe en fer forgé, qui dominait un puits circulaire où des champs de confinement reconnaissables à leur couleur bleutée protégeaient les antiques parchemins, les vieilles cartes en lambeaux, les manuscrits enluminés et les bandes dessinées anciennes des atteintes de l'atmosphère. Le bibliothécaire ouvrit une porte basse, plus épaisse qu'une entrée de sas, et nous passâmes dans une petite pièce sans fenêtre, où de lourdes tentures dissimulaient à moitié des niches murales remplies de volumes anciens. Un unique fauteuil en cuir était posé sur un tapis persan pré-égyrien, et une vitrine contenait quelques fragments de parchemin sous vide. « Allez-vous publier bientôt, monsieur ?» me demanda le petit homme. « Comment ? » fis-je en détournant les yeux de la vitrine. « Oh, je ne crois pas. » L'archiviste se toucha le menton du poing. « Pardonnez-moi de vous dire cela, monsieur, mais il serait dommage que vous ne le fassiez pas. D'après les quelques conversations que nous avons pu avoir à ce sujet dans le passé, il me semble que vous êtes l'un des auteurs les plus qualifiés, sinon le plus qualifié du Retz dans le domaine des études kitsiennes. Pardonnez-moi de vous parler ainsi. » répéta-t-il en faisant un pas en arrière avec un grand soupir. Je le considérais gravement pendant un bon moment. « Il n'y a pas de mal, » lui dis-je. Je savais soudain très bien pour qui il me prenait et pourquoi cette personne était venue plusieurs fois ici. « Je suppose que vous désirez rester seul, monsieur, » murmura l'archiviste. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Le petit homme s'inclina et sortit en tirant derrière lui la lourde porte qu'il laissa cependant légèrement entrebâillée. La seule lumière à l'intérieur provenait de trois luminaires discrets encastrés dans le plafond, parfaits pour la lecture, mais pas assez puissants pour soutenir la comparaison avec l'atmosphère de cathédrale qui régnait ici. Les seuls bruits que j'entendais étaient ceux des pas feutrés de l'archiviste qui s'éloignait dans le couloir. Je m'avançai jusqu'à la vitrine, posant les mains sur les côtés de manière à ne pas salir le verre. Le premier cybride de récupération de la personnalité de Keats, Johnny, était de toute évidence venu ici plusieurs fois durant les quelques années où il avait vécu dans le Retz. Je me souvenais à présent d'une allusion à une bibliothèque de Renaissance V faite par Brown Lamia. Elle avait suivi son client et amant jusqu'ici au début de l'enquête qu'elle avait faite sur sa mort. Plus tard, lorsqu'il avait été tué pour de bon, à l'exception de l'enregistrement de sa personnalité consignée dans la boucle de Schrön, elle était venue elle-même visiter cet endroit. Elle avait parlé aux autres pèlerins de deux manuscrits de poèmes que le premier cybride venait retrouver chaque jour dans ses efforts répétés pour comprendre ses propres raisons d'exister et de mourir. Les deux originaux se trouvaient dans cette vitrine. Le premier était, à mes yeux, un poème d'amour plutôt mielleux qui commençait par « Ce jour a disparu et avec lui toutes ses délices ». Le deuxième était meilleur, quoique contaminé lui aussi, par le romantisme morbide d'une époque par trop romantique et morbide. « Ma main que voici vivante, chaude et capable d'étreindre passionnément viendrait, si elle était raidie et emprisonnée au silence glacial du tombeau, à ce point hanter tes jours et transir les rêves de tes nuits, que tu voudrais pouvoir exprimer de ton propre cœur jusqu'à la dernière goutte de sang, pour que dans mes veines le flot rouge fasse de nouveau couler la vie, et que ta conscience s'apaise. Regarde, la voici, je l'attends vers toi. » Brown Lamia avait pris cela presque comme un message personnel de son amant décédé, le père de son enfant à naître. Je regardai longuement le manuscrit, baissant la tête jusqu'à ce que mon haleine embue légèrement le verre. Ce n'était pas un message destiné à Brown à travers les siècles, ni même une complainte adressée de son vivant à Fanny, l'unique et le plus cher objet de tous les désirs de mon âme. Je contemplais, fasciné, les mots à demi effacés, l'écriture appliquée, les lettres encore lisibles à travers les gouffres du temps et de l'évolution du langage. Je me souvins du jour où j'avais griffonné ce passage en décembre 1819 sur une page du conte de fées satirique que je venais de commencer, Le bonnet à grelots ou Les jalousies. C'était quelque chose de terriblement inepte, que j'avais abandonné promptement après les quelques moments d'amusement du début. Le fragment de « Ma main que voici vivante » appartenait à cette veine poétique qui résonne au fond de l'esprit comme un accord musical imparfait qui exige d'être porté avec de l'encre sur le papier pour être concrétisé. C'était d'ailleurs déjà l'écho d'un vers plus ancien et peu satisfaisant, le 18e si je me souviens bien, de ma deuxième tentative de conter l'histoire de la chute du dieu soleil, Hyperion. Je me souviens que la première version, celle qui est toujours imprimée, sans nul doute là où mes ossements littéraires sont exposés, tels les restes momifiés de quelques saints involontaires figés dans le verre et le béton au pied de l'autel de la littérature, se présentait ainsi. Quel vivant peut dire « Tu n'es pas poète, tu ne peux exprimer tes rêves ». Tout homme dont l'âme n'est pas une motte de terre a des visions et voudrait les décrire, pour peu qu'il aime et qu'il cultive sa langue natale. Que le rêve dont je vais maintenant vous entretenir soit celui d'un poète ou d'un fanatique, cela ne se saura que lorsque mon vivant stylet, ma main, sera dans la tombe. J'aimais bien la première version, avec ses échos de fantômes et de créatures hantées. Je l'aurais bien mise à la place de « lorsque mon vivant stylet, ma main », même si cela entraînait quelques modifications et l'ajout de 14 vers à l'introduction déjà trop longue du premier canto. Je fis quelques pas en arrière en titubant et me laissai tomber sur la chaise en sanglotant, la tête dans les mains. Je ne savais pas pourquoi je pleurais, et j'étais incapable de m'arrêter. Lorsque les larmes cessèrent enfin de couler, je demeurai prostré un bon moment, essayant de rassembler mes pensées. À un moment, peut-être plusieurs heures plus tard, j'entendis des pas dans le couloir. Ils s'approchèrent jusqu'à la porte, attendirent respectueusement à l'entrée de la petite salle, puis s'éloignèrent lentement. Je m'aperçus que tous les livres qui se trouvaient ici étaient des œuvres de Mr. John Keats qui mesurent 5 pieds de haut, comme je l'avais écrit un jour. John Keats, le poète phtisique, qui avait demandé que sa tombe ne porte pas de nom et que sa seule épitaphe soit « Si j'y celui dont le nom était écrit dans l'eau ». Je ne touchais à aucun livre. Je n'avais pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils contenaient. Seul dans le silence et l'immobilité de la bibliothèque imprégnée de senteurs de cuir et de vieux papiers, seul à l'intérieur du sanctuaire de mon être et de mon non-être, je fermais les yeux, non pour dormir, mais pour rêver.